Bonjour à toutes et à tous, nous sommes lundi, c'est Quentin qui vous parle, Sylvain est à la régie. Vous écoutez L'Onde Curieuse, le magazine d'info de Fréquence 7. Je reviens du salon Prime Vert à Lyon. Pendant 3 jours, j'ai suivi des ateliers et des conférences sur toutes les thématiques liées à la transition. La transition avec un T majuscule, ces dernières années, c'est le mot qui s'est imposé dans le langage pour décrire et pour réunir toutes les actions mises en œuvre pour sortir notre civilisation de l'impasse dans laquelle elle s'est engouffrée. Le modèle de la croissance éternelle, qui est basé sur l'extraction des ressources fossiles, nous condamne, et pour éviter la catastrophe finale, les initiatives sont nombreuses. Là où certains prônent l'action individuelle, j'ai trouvé plein de stands pour faire un compost sur son balcon, devenir végétarien, réparer son électroménager, un niveau d'action qui est utile mais qui n'aura un impact que si elle est suivie par la majorité d'entre nous. D'autres stands préfèrent tenter d'influencer les politiques publiques pour faire une transition structurelle. Des associations et des groupes d'experts viennent interpeller les pouvoirs publics pour imposer d'en haut les changements de pratiques à grande échelle. À ce sujet, j'ai interrogé Arthur Keller, qui est spécialiste des risques systémiques qui pèsent sur nos sociétés, et il est promoteur aussi de la résilience territoriale. Vous en saurez plus en écoutant l'entrevue au cœur du Salon Prime Vert que l'on écoutera dans un instant. Pour le moment, c'est l'heure de quelques informations locales. Alors que la semaine dernière, la semaine dernière, du coup, des équipes de sécurité nucléaire ont mené des exercices à la centrale de Cruas. Donc c'était l'occasion pour toute une équipe de travailleuses et travailleurs de montrer que les interventions en cas d'urgence s'avéraient efficaces et utiles. Et en fait, j'ai appris que au même moment, le gouvernement inscrivait dans son projet de loi d'accélération du nucléaire la suppression de l'Institut de radioprotection et de la sûreté nucléaire, qui est donc l'organisme chargé de veiller à la sûreté des centrales. Ça concerne 1700 salariés qui sont aujourd'hui en grève. L'idée du gouvernement, c'est de répartir les missions entre l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, et le CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Donc les 1700 salariés ont été appelés à faire grève aujourd'hui. Je tâcherai d'en savoir plus demain. Alors, puisqu'on parlait de résilience, sachez que les communes de Sud-Ardèche réfléchissent de plus en plus à des manières de redevenir autonomes. Les faïences de pierres sèches qui structurent notre paysage sont délaissées et tombent en ruine alors qu'elles ont permis pendant des siècles notamment de produire de la nourriture. La mairie de l'Argentière organise donc une rencontre mercredi, le 22 à 18h, intitulée « Adopte une terrasse ». L'idée, c'est de mettre en relation des personnes qui possèdent des faïences mais ne les utilisent pas avec les habitants du bourg qui voudraient réhabiliter et faire revivre les faïences autour de l'Argentière pour produire à manger, pour se divertir, se détendre. C'est une belle occasion de se réapproprier nos paysages. Rendez-vous donc si vous habitez à l'Argentière, mercredi à 18h, dans les locaux de la communauté de communes du Val-de-Ligne à l'Argentière. Toujours à propos d'une société souhaitable, le collectif NUPES du Pays des Vences organise demain une soirée de débat sur la réforme des retraites. Alors les socialistes ne semblent pas très inspirés pour revendiquer une opposition. La thématique est simplement travailler jusqu'à 64 ans, dans quel état de santé et pour quelle pension. C'est animé par une autodidacte spécialiste des systèmes de retraite par répartition. Et c'est une belle occasion de ne pas s'opposer frontalement à la réforme, à moins que des personnes plus véhémentes prennent part au débat. Rendez-vous donc à 20h au centre d'accueil des Vences, place Fernand Aubert. Enfin, demain, c'est Mardi Gras. Ça passe un peu inaperçu, mais le carnaval, cette grande fête populaire qui abolit les rôles sociaux depuis des siècles et des siècles, et qu'on a transformé en un sage défilé pour enfants, semble mort. Qui ose encore sortir masqué, offrir gratuitement à manger et à boire, jeter de la farine sur la marée chaussée, faire le trublion dans les rues? Un deuil national du carnaval est proposé, ou alors sa renaissance? Ça peut être librement organisé par celles et ceux qui le souhaitent dans les villages de France. Sans transition, on transite rapidement vers des lendemains qui chantent, dès aujourd'hui, avec les Toulousains de Fabulous Troubadours.
Demain sera un autre jour.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, tu trouveras pas l'amour.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, la chance tournera.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, la vie vous sourira.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, on nous dira demain.
Quand c'est qu'arrivera demain.
Demain sera toujours demain. Demain c'est la terre promise, demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise, demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise, demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise, demain décourage aujourd'hui.
Demain c'est la terre promise.
C'est promis.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, c'est sûr, on vous l'a dit.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, ceci, demain, cela.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, demain, j'entends que ça.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, nous disons tous demain. Demain sera toujours demain.
Oh qu'ils sont nombreux les demain.
Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui.
Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui.
Et c'était les Fabulous Troubadours, le groupe d'occitanistes toulousains, avec leur morceau « Demain, demain ». Il est sorti de leur album « Duel de Tchatch » qui fête cette année ses 20 ans, mais reste toujours d'actualité. C'est un morceau qui nous rappelle qu'à force de repousser au lendemain les décisions d'aujourd'hui pour aller vers des lendemains qui chantent, l'élan d'aujourd'hui s'efface et on ne peut plus faire face, par exemple, à l'urgence d'une transition écologique, sociale et énergétique pour éviter que nos lendemains déchantent. Alors sur les dangers qui menacent notre civilisation et sur l'importance d'agir rapidement et collectivement, j'ai interrogé Arthur Keller. Conférencier et auteur, Arthur Keller est spécialiste des stratégies de résilience territoriale et c'est également un fin analyste des risques systémiques. Je l'ai rencontré au Salon Prime Vert et je lui ai d'abord demandé ce qu'étaient les risques auxquels notre système était confronté.
Alors, c'est une très bonne question. Bon, globalement, déjà, un risque systémique, on peut dire que ce sont des risques qui portent sur l'intégralité d'un système, en l'occurrence, bon, le système auquel on, ou les systèmes plutôt dont on se préoccupe ici, ce sont les sociétés humaines. Donc ça peut être des sociétés au sens de pays, mais ça peut être plus large que ça, ou plus restreint, ça peut être des territoires. En tout cas, c'est là où il y a des gens qui vivent, globalement. Mais surtout, il ne faut pas ignorer le reste. C'est-à-dire que souvent, je vois des gens qui s'intéressent au système humain, et qui s'intéressent beaucoup moins aux systèmes écologiques. En l'occurrence, il s'agit vraiment de s'intéresser aux systèmes socio-écologiques, donc des activités humaines, des sociétés humaines en interaction avec un monde naturel, donc des écosystèmes, un climat, des ressources, des cycles, des grands cycles du vivant, cycle de l'eau, du carbone, de l'oxygène, etc., etc. Le cycle de nutriments. Voilà, c'est ça aujourd'hui le système sur lequel je travaille. Et donc les risques systémiques sont des risques qui portent sur ce type de système. Mais c'est aussi éventuellement des risques qui sont issus du système. C'est-à-dire que typiquement, dans le film Don't Look Up, on a une météorite qui arrive vers la Terre, pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un risque systémique, hein, puisque si elle nous frappe, forcément, ça va remettre en question beaucoup de choses. Mais vous voyez, c'est totalement exogène, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, on n'y est pour rien. Alors qu'en l'occurrence, les risques, la plupart, un grand nombre des risques systémiques qui pèsent sur nos sociétés, ben justement, ce sont les sociétés elles-mêmes qui les ont provoqués, directement ou indirectement, de manière rapide ou lente ou diffuse, ça dépend des cas. Donc il y a plein de risques qui pèsent effectivement sur nos systèmes de vie. Donc à la fois des risques écologiques, notamment climatiques évidemment, la biodiversité, les sols, l'eau, l'accès à certaines ressources, et puis des risques qui vont être ou pas des conséquences de ça. On a des risques de, par exemple, de migration, on a des risques de violence, on a des risques de, aujourd'hui, enfin c'est même pas un risque, c'est un processus qui est en cours, de déstructuration sociale, il n'y a pas de cohésion sociale, il y a une polarisation, une fracturation des sociétés. On a des risques également de globalement, hein, au long terme, de dégradation progressive et globalement irréversible, même si évidemment localement on peut lutter et gagner un peu de temps. Je parle de la dégradation des infrastructures. Donc ce sont des risques très, très divers et variés. On parle aussi bien donc, de santé, d'environnement, d'énergie, d'infrastructures, comme je disais. Bon, d'ordre public également, c'est des sujets qui dépassent largement le cadre strict de l'écologie, même si ça les intègre, même si ça l'intègre.
Et du coup, sur cette liste de risques qui pèsent sur nous et qui sont liés à des facteurs endogènes, c'est-à-dire qui sont générés par les sociétés humaines, vous identifiez quoi comme facteurs principaux ? Est-ce que l'industrialisation est le facteur principal, est le générateur principal de risques systémiques ?
C'en est un. Alors l'industrialisation est une des façons qu'on a eu d'organiser l'exploitation du vivant et l'exploitation des ressources. C'est pas forcément le vivant d'ailleurs, c'est pas des ressources minières. Donc globalement, effectivement, on est dans une logique qui est extractiviste. On extrait des ressources en amont et productiviste. Donc il faut produire, de surcroît. Toujours plus, ah ben sinon ça serait pas drôle, avec derrière les notions de rentabilité, de profitabilité, de croissance, etc., croissance économique. Et puis en bout de course, même si on recycle certaines choses, on pollue. Donc c'est effectivement l'ensemble de ce cycle, l'ensemble de ce processus, avec le fait que l'on prélève en amont dans le monde naturel, soit dans la lithosphère, la couche externe du manteau terrestre, des ressources minières, des minerais, des métaux, du sable et plein d'autres choses, de l'eau et puis de la biomasse, tout ce qui est ensuite ressources renouvelables qu'on exploite. Si on les exploite à un rythme supérieur à leur taux de renouvellement, bah derrière, finalement, le stock baisse. Donc on exploite trop en amont. Ensuite, toutes ces ressources, on les transforme avec de l'énergie qu'il a fallu chercher ou produire. On les transforme en biens, en services, en activités, en infrastructures, en bâtiments, tout ce que vous voulez, mais qui forment les sociétés humaines. Et au passage, qu'est-ce qu'on fait ? On transforme la nature. Et il se trouve qu'on transforme plus vite que sa capacité d'adaptation. Et on détruit un certain nombre de choses. Et on détruit aujourd'hui plus vite les écosystèmes que leur capacité de régénération. Et enfin, en aval, on génère des déchets et des pollutions. Et ces déchets et ces pollutions s'accumulent plus vite que la capacité du système à les absorber. Pour ce qui est absorbable, tout ne l'est pas. Donc voilà, au final, en amont, au milieu, en aval, on dépasse les limites planétaires. C'est une question, en réalité, de dépassement à pas mal d'égards, dans pas mal de dimensions différentes, de dépassement de la capacité de la Terre à encaisser les impacts que lui inflige la somme des activités humaines.
Ça vient un peu du fait qu'on a détaché la sphère humaine du reste de son environnement, non ? C'est une lecture un peu linéaire et le mythe extractiviste est lié au fait qu'on ne se considère pas vraiment comme partie d'un tout qui nous englobe, mais qu'on a le droit et le devoir d'exploiter la nature, justement.
Je peux comprendre que de toute façon, il y a un moment où tu exploites un minimum. Pour pouvoir exister, pour pouvoir vivre, tu as un impact sur ton environnement. Direct, indirect. Bon, donc ça, de toute façon... pardon, ça d'accord. Le problème, effectivement, c'est d'être allé aussi loin dans le délire. c'est d'avoir considéré que nous étions maîtres et possesseurs de la nature à tel point que tout le reste n'était là que pour être exploité et surexploité. Et donc il y a effectivement cette décorrélation aujourd'hui entre l'humain et le reste, et cette volonté de décorrélation, cette volonté d'être au-delà, d'être à part, d'être au-dessus, qui est gravement problématique. L'anthropocentrisme, donc ça c'est un problème qui est encore plus fort et plus profond que simplement la culture, c'est même anthropologique. L'anthropocentrisme de la grande majorité de nos sociétés, de nos cultures, est problématique. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas important de se préoccuper des êtres humains, hein, mais cette obsession exclusive pour l'être humain, au détriment du reste qui ne serait là que pour le servir, est une catastrophe. Et alors, ça pouvait être une catastrophe anthropologique, une catastrophe philosophique, éthique ou morale jusqu'à un certain point, mais là maintenant, ça se transforme en une catastrophe écologique, avec des disruptions écologiques majeures qui vont avoir un impact sur les sociétés et des disruptions sociétales majeures. C'est la conséquence, effectivement, d'un aboutissement de postures qui sont, je pense qu'on peut le dire au sens propre du terme, qui sont contre nature. Ouais.
Merci, c'est un constat assez vrai. Et partant de ça, du coup, c'est là qu'intervient un peu votre expertise en tant que spécialiste des récits qui orientent l'imaginaire et en tant que spécialiste des résiliences territoriales. Donc ça veut dire que vous réfléchissez aujourd'hui à quelle piste prendre collectivement pour un avenir souhaitable.
Oui, pour un, un avenir digne. Alors, juste une chose quand même. Effectivement, moi j'ai une spécialité sur les systèmes résilients et comment, les stratégies pour essayer de les organiser. La partie récit que vous avez évoquée, c'est un peu particulier parce que c'est un des multiples outils, un des multiples leviers sur lesquels il faut jouer. Les récits font pas tout, mais on en a besoin. Mais par contre, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, les récits sont un des outils à double tranchant. Des fois, avec les meilleures intentions du monde, on peut faire très mal. Et donc, c'est quand même très, très compliqué et très subtil. Aujourd'hui, j'en parle toujours, mais je ne me présente pas nécessairement sous cette casquette-là, parce que si on commence à parler de récits, là c'est bon, on est parti pour 2 heures, parce qu'il y a tellement de dimensions et tellement de nuances à mettre en place pour que j'essaie d'exprimer ce qui, selon moi, fait qu'on utilise bien les récits, c'est-à-dire d'une manière efficace, qui permet d'engager des changements qui sont constructifs et qui vont dans le sens du maintien d'une possibilité d'un intérêt général. Voilà. Donc globalement, il y a ça. Et puis il y a tout ce qui ne va pas et tout ce que je considère dangereux. Bon, si on commence à rentrer là-dedans, effectivement. Donc, c'est pour ça que je veux juste, par précaution oratoire, dire, vous m'avez présenté comme un spécialiste des récits. C'est, disons que j'ai étudié en profondeur cette question-là, effectivement, et que j'en suis ressorti avec quelques certitudes et beaucoup de questions. Mais en tout cas, c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui.
Voilà. Ça sera l'objet d'un autre entretien. Du coup, on va s'en tenir à la résilience, parce que sur ce salon Prime Vert, c'est un terme qu'on entend beaucoup, qu'on croise sur énormément de stands. La résilience des sociétés, la résilience d'un système, ça fait partie du nouveau récit qu'on pourrait se proposer. Et comment on peut œuvrer pour un territoire résilient ? Ça consisterait en quoi ?
Ah oui, alors ça, c'est tout mon travail et c'est multifactoriel, donc c'est, là aussi c'est compliqué. Globalement, la résilience, est-ce que ça peut faire partie d'un récit ? Je ne suis pas sûr, oui, mais attention, parce qu'il y a résilience et résilience. C'est aussi des fois ce que je dis. La résilience, c'est quelque chose qui est absolument clé pour l'avenir, mais je vais préciser un petit peu parce que ça ne veut pas dire quoi que ce soit. Si je dis juste la résilience, ça ne veut rien dire. Donc il faut préciser les choses. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que il y a aussi beaucoup de moyens de la mettre en place et à quoi on l'applique. Donc c'est pas parce que quelque chose est résilient que c'est bien. Je veux dire, quand quelque chose de mauvais est résilient, c'est pas bon. Voilà, et souvent je dis que, par exemple, les dictatures sont très résilientes. Donc la résilience ne peut pas être l'objectif. Donc il doit être mis au service d'un projet de société, d'un projet collectif. Quel est-il ? Donc il faut aussi de la reliance, il faut faire les choses ensemble, et sans vouloir absolument dire Kumbawa, on est tous copains, on va tous... Parce que c'est totalement, évidemment, naïf de raisonner comme ça. Pour autant, il faut dire aux gens qu'il ne peut pas y avoir de résilience de qui que ce soit et de quoi que ce soit si la résilience n'est pas construite collectivement avec des gens très différents et des acteurs des territoires très différents. Parce que on ne peut pas avoir un îlot de résilience au milieu d'une société qui ne l'est pas. C'est pas possible. Ça peut l'être temporairement. Voilà. Il peut y avoir des gens qui sont très résilients, qui ont réussi à construire des modes de vie très résilients, et ils le sont, tant mieux, mais voilà, c'est temporaire. Ils ne le sont que jusqu'à ce que les autres débarquent. Bien ou mal intentionnés d'ailleurs, ça ne change rien. Ils n'ont pas la capacité d'accueillir et de gérer des conflits, des disruptions, des influx de personnes. Bon, donc, il y a aujourd'hui, effectivement, un véritable enjeu de résilience des sociétés à l'échelle territoriale, parce que sans trop rentrer dans les détails maintenant, trop petit, c'est ce que je viens de dire, on ne peut pas être résilient, on ne peut pas résister, si vous voulez, aux grands chambardements qui arrivent. Trop grand, c'est des usines à gaz qui font que on réorganise des choses complexes qui ne peuvent survivre qu'en étant tributaires de chaînes d'approvisionnement qui viennent de très loin souvent. Et ces chaînes d'approvisionnement elles-mêmes ne fonctionnent que s'il y a une abondance de pétrole bon marché. Or, on est précisément en train de commencer à sortir de l'ère du pétrole abondant et bon marché. Donc, tout ça, ça ne va pas. C'est à l'échelle territoriale qu'il faut s'en occuper. Puis ensuite, interterritoriale, c'est-à-dire fabriquer des réseaux de territoires résilients et d'entraide, des réseaux d'entraide et de solidarité, de complémentarité entre les territoires. À l'échelle territoriale, les territoires doivent être conçus donc comme des systèmes socio-écologiques. C'est à la fois la résilience des fonctions essentielles du territoire, de ce qui fait que, également, nous sommes nous, et de ce que fait qu'on peut survivre, certes, mais aussi vivre d'une manière digne, ensemble, sans que ce soit le chaos, sans qu'on commence à se tirer dans les pattes, parce que certains auraient été résilients et pas d'autres, et que, du coup, ça se passe pas bien s'il y a ces différentiels-là. Donc, c'est comment on organise tout ça, mais aussi, là, avec la nature, une fois de plus, donc socio-écologique. Aujourd'hui, les questions de cohésion sociale, c'est effectivement une dimension très importante d'une résilience possible, mais il faut aussi une cohésion écologique, quelque part. Et il faut une solidarité envers le reste de la nature, parce qu'elle est en train de s'asphyxier, de s'effondrer.
Et qu'est-ce que vous considérez comme un territoire? Alors, est-ce que c'est une zone géographique, une entité politique, un bassin de population?
Alors, c'est plutôt quel niveau de réflexion? C'est plutôt un bassin de population. C'est plutôt, pour ceux qui connaissent, ça s'apparente quelque part, pour ceux qui connaissent, à la notion de biorégion. Globalement, effectivement, au sens de l'INSEE en France, on appelle ça bassin de vie. Voilà, effectivement une notion, celle de territoire, qui est à géométrie variable en fonction des lieux et en fonction des gens. Et on peut dire, en tout cas, que la bonne taille... Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas démontré, c'est pas démontrable. C'est plutôt une espèce de ressenti général de personnes, moi et d'autres, qui ont beaucoup planché sur ces questions. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est un absolu, parce que ça dépend de plein de choses. Mais globalement, c'est de quelques... On va dire entre 10 et 100 000 personnes. Voilà. Peut-être un peu moins de 10 000. Des fois, peut-être un peu plus de 100 000, mais ça me paraît beaucoup, beaucoup.
Et qu'est-ce qu'on fait avec les grandes villes, alors?
Avec les grandes villes, justement, ça va être compliqué. Les grandes villes sont en surpopulation. Donc, on ne le sait pas encore. On ne s'en est pas rendu compte. Mais quand les chaînes de distribution, les chaînes d'approvisionnement dont nous sommes tributaires, dépendants, donc vulnérables, en amont et en aval... vont commencer à dysfonctionner, voire peut-être un jour carrément à s'arrêter, et la ville sera plus totalement vivable. Hein. Mais par contre, il ne faut pas imaginer que, du coup, il faut fuir les villes. C'est plus subtil que ça. Nous allons avoir très probablement une crise énergétique forte, elle a peut-être déjà commencé. Est-ce que ce qu'on vit en ce moment, avec l'accélération due à la crise ukrainienne, qui n'est pas une cause, hein, mais qui est un révélateur, un accélérateur, est-ce que cette crise énergétique va revenir à la, entre guillemets, normale, avant, ensuite, un peu plus tard, de redécliner, et de toute façon, ce sera probablement, dans le mieux des cas, au tout début des années 2030. Ou est-ce que ça y est, on est déjà dedans, et puis les engrenages se mettent en place, ce qui est également assez plausible. On verra bien, toujours est-il, que ce qui va se passer, c'est que les gens qui vivent dans les campagnes vont avoir beaucoup de mal. Imaginez qu'il n'y ait plus de pétrole à la pompe, ou plus beaucoup, ou plus tout le temps, ou très cher, ou... Vous vous rendez compte, les gens qui dépendent de la voiture pour tout, le problème. Et donc, quelque part, ils risquent d'être mieux de vivre en ville qu'à la campagne, pour cette question-là notamment. Pour aussi la question que si demain, l'État en arrive à ne plus avoir tous les moyens d'assurer la sécurité partout, on assurera d'abord la sécurité dans les villes, parce que c'est là que sont les centres de décision et de pouvoir, les capitaux, les entreprises, les institutions, patati. Et qu'il est probable que dans un premier temps, il soit moins désagréable de vivre en ville où on peut se balader et faire ses courses dans un rayon géographique maîtrisée sans avoir de voiture. Sauf que ça, une fois de plus, ce n'est valable que jusqu'à ce que les flux d'approvisionnement entrants et sortants fonctionnent. Enfin, les flux entrants et sortants fonctionnent. Et si jamais ces flux-là dysfonctionnent, voire s'arrêtent, ce qui va arriver, alors est-ce que ce sera dans 5 ans, dans 10, dans 15, dans 20, très graduel ou d'un seul coup, je n'en ai pas la moindre idée parce que je ne m'appelle pas Madame Irma, mais cela dit, ça va arriver. Et à ce moment-là, les villes deviennent vite invivables. Donc il va y avoir des dynamiques très compliquées, avec des allers-retours, des phases différentes. Je ne peux pas dire ce qui va se passer, une fois de plus, parce que je ne suis pas devin, mais nos sociétés vont être profondément chamboulées. Maintenant, je ne veux pas qu'on reste là-dessus, parce qu'effectivement, ça, c'est une vision très, très négative. Il y a des gens qui pensent peut-être tout de suite « Oh, il nous emmerde celui-là, ça y est, il veut ruiner le moral de tout le monde », avec des imaginaires à la Mad Max qui surgissent. Il ne s'agit pas de se restreindre à ça, mais de voir effectivement ce qu'on peut faire face à ça.
Et du coup, c'est là que vous proposez des portes de sortie. Est-ce que vous avez quelques pistes à suggérer pour une sortie collective de la crise? Est-ce qu'on peut imaginer une transition heureuse? Est-ce qu'on est dans un avenir immédiat de fin du monde?
La fin d'un monde, déjà, certains disent. Mais ouais, je veux lutter contre une idée qui est celle qui consisterait à dire ou à penser « c'est trop tard ». Trop tard pourquoi? Alors, est-ce que c'est trop tard pour éviter des lendemains qui déchantent, en tout cas en comparaison avec les promesses qui nous ont été faites, avec les imaginaires qu'on a entretenus, les rêves, les projets, les ambitions qu'on a encore aujourd'hui? Ben ouais, c'est trop tard, oui, ça c'est sûr que ça ne va pas se passer comme on l'avait imaginé. Mais est-ce qu'il est trop tard pour éviter que ce soit encore pire? Non, voilà. Les gens aujourd'hui qui pensent que c'est trop tard, quelque part ça ne va pas parce qu'ils n'imaginent peut-être pas encore, ils ne se sont pas encore représentés à quel point ça peut être pire. Voilà, et donc notamment pour la question climatique, mais pour plein d'autres choses. Et donc, véritablement, là, il n'y a plus de questions à se poser. C'est tout sur le pont et il y a plein de choses à faire, non pas pour éviter le problème. Non, on va avoir des problèmes, mais pour les limiter, d'une part, et surtout pour se préparer et être capable de les gérer ensemble d'une façon digne. Et il y a moyen, c'est ça qui est intéressant, il y a moyen. Sauf que il faut le faire. Et pour le faire, il faut le comprendre qu'il faut le faire. Donc il faut prendre conscience. Et donc il faut avoir accès à l'information. Et puis derrière aussi, il faut prendre peur. Il faut prendre peur. Donc, ce que je dis, ça fait peur. C'est pas le but de faire peur. Moi, mon travail, c'est de proposer un constat le plus objectif possible, le plus honnête possible. Et ce constat, bah, j'en suis navré, il fait objectivement peur. Et certains disent, ah, mais parce que ça fait peur, ce serait pas bon. Et le fait de ne pas faire peur, c'est mieux pour mobiliser les gens. Alors, je réponds tout de suite à ça. Parce que c'est même pas moi qui le dis. Il y a beaucoup d'études sur la question. Il y a même des méta-analyses qui font la synthèse de plusieurs centaines d'études sur la question. C'est pas vrai. Si on ne fait pas peur, si on engage uniquement les gens par des choses positives, par des choses par le désir, etc., à ce moment-là, oui, il y a pas mal de gens qui font des choses, mais des petites choses. Des petites choses. Des petites choses qui sont des fois pas du tout pertinentes. Des fois, elles le sont, mais elles sont tellement insignifiantes. Et bon, quelques-uns, il y a des exceptions, des gens qui font des choses bien, mais globalement, ça marche pas. Pour qu'il y ait, or c'est bien de ça qu'on a besoin, une remise en question profonde de nos sociétés, il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas le choix. Et donc, pour comprendre qu'il n'y a pas le choix, c'est qu'il faut comprendre la situation dans laquelle on se trouve, et nécessairement, on a peur. Cette peur, elle est indispensable. Voilà, donc aujourd'hui, juste pour te dire, il y a plein de choses que l'on peut faire, plein de leviers pour activer la résilience. Ça se passe à la fois dans la tête, donc il y a des postures à faire évoluer. Il faut arrêter d'imaginer qu'on va pouvoir trouver des solutions. Non, on va se prendre on va se prendre un tsunami dans la gueule, mais on peut apprendre à surfer, par contre. Voilà. Et il y a un certain nombre de leviers qui sont à notre disposition, donc à la fois mentaux, dans la culture, dans notre façon de nous comporter avec les autres et avec la nature. Je ne demande pas nécessairement des grandes révolutions anthropologiques et culturelles, parce que ce serait être un peu naïf que d'espérer cela. Mais pour autant, au niveau local, on peut mettre en place des différentes modalités de connexion et d'interaction avec ce qui nous entoure. Et puis ensuite, il y a effectivement des actions, et sans développer trop, je vais dire juste trois choses. Un, il y a des actions à mener en termes de résilience, effectivement. Alors là, j'y reviens, mais c'est comment on peut faire en sorte de savoir, dans un rayon géographique maîtrisable, réaliser et maintenir dans le temps, et assurer en fait la satisfaction de nos besoins les plus essentiels. Et même si on n'a pas tous exactement les mêmes besoins, il y a quand même un certain nombre de besoins sur lesquels on converge à peu près tous. Donc ça, c'est la première dimension. Comment on peut faire en sorte demain de pouvoir bouffer, boire, se loger, se vêtir, avoir accès à une information, de l'éducation, un système de soins, même si ce n'est pas exactement le même peut-être que celui d'aujourd'hui, etc. sans dépendre de chaînes d'approvisionnement de l'autre bout du monde, sans dépendre de compétences qu'on n'a pas chez nous, par exemple pour produire la bouffe, s'il n'y a pas des dizaines, voire des centaines, je ne sais plus le chiffre, de milliers de personnes spécialisées, étrangères, à bas coût, qui viennent chaque année de façon saisonnière pour produire pour nous, qu'est-ce qu'on fait ? Et le jour où il n'y aura plus de pétrole abondant dans les bons marchés, ils ne viendront plus. Comment on fera, nous ? Donc si on n'est pas capable de se réapproprier sur tous ces besoins-là, c'est un problème. Donc ça, c'est une chose. J'ai dit que j'allais dire trois choses. La première chose, c'est comment on développe notre résilience pour être capable, dans un contexte dégradé, de changement climatique notamment et de crise, malgré tout cela, de continuer à assurer durablement, en bonne intelligence, nos besoins essentiels. La deuxième dimension, c'est comment on teste des éléments d'un nouveau système économique, social, d'un nouveau système de gouvernance. C'est-à-dire globalement, donc on travaille sur à la fois comment les entreprises fonctionnent, et on sort de la pure logique simple à la fois capitaliste et financière, où c'est juste un bilan avec actif passif, et puis il faut qu'on gagne plus d'argent qu'on en dépense, et puis c'est bon. Avec des logiques de compétitivité, etc. Bon ben, je veux bien, mais il faut se réveiller, c'est ridicule, quoi. Je veux dire, c'est d'une bêtise. Au bout d'un moment, bon, alors bref, donc il faut essayer de créer les éléments d'un nouveau système qui fonctionnerait sur d'autres plans et qui prenne en compte les autres dimensions, également sur le modèle social, comment on redistribue, comment on assure aux gens l'accès à l'essentiel, etc. Bon, donc voilà, donc ça c'est, et puis c'est ces éléments qu'on va pouvoir tester et expérimenter, et j'espère valider au niveau territorial, pourront demain se mettre les unes avec les autres dans une espèce de puzzle gigantesque qui sera un nouveau projet de société. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que comme j'ai pas le temps de tout développer, il faut aller voir une de mes conférences. Voilà, parce que finalement, le meilleur usage que tu puisses faire de là ou des deux minutes qui me restent, c'est de renvoyer vers quelque chose où je développe plus, parce que là, j'ai pas le temps. C'est très multidimensionnel. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu, allez voir, il y a certaines conférences de moi qui tournent en ligne. Et si vous voulez vraiment, vraiment creuser, ben allez voir les plus longues, ou celles que je développe le plus. Il y a notamment mon cours à Centrale Supélec. Si vous faites Arthur Keller Centrale Supélec, vous le trouverez. Vous verrez, dans la dernière partie, je développe un peu plus. Voilà.
Alors, rendez-vous du coup sur internet pour en savoir plus sur les interventions de Arthur Keller, K-E-2-L-E-R. Voilà, c'est un homme qui n'est pas très optimiste, mais qui a quand même espoir qu'on sera capable de mettre en route en même temps des éléments de résilience immédiate de nos territoires et de réfléchir dans l'urgence à transformer nos institutions politiques et économiques pour s'adapter aux changements qui s'imposent. C'était un entretien fascinant parmi d'autres. Je pense qu'on rediffusera plusieurs des entretiens que j'ai menés à Prime Vert ce week-end sur l'onde curieuse dans les jours et les semaines qui viennent. Pour l'instant, on s'avance doucement vers la fin de cette émission. C'était donc l'onde curieuse du lundi 20 février pour la suite du programme de la journée. Donc ça se passe tout en ligne, en direct, parce que notre émetteur FM continue de connaître des problèmes. On essaie de résoudre ça au plus vite, peut-être même dès cet après-midi grâce à Sylvain. Pour le moment, donc, vous retrouvez à 13h les jardins suspendus, à 15h c'est le Telex, donc la boîte vocale qui accueille vos messages librement au 04 75 93 30 25. À 17h, on rediffuse l'onde curieuse de ce midi. À 18h, c'est une nouvelle émission de Solidaires d'abord en direct. À 18h45, vous retrouverez l'émission en partenariat avec le PNR qui s'appelle Les Pieds dans le Parc et qui est consacrée aux toilettes sèches. Et enfin, à 21h, la rediffusion de Hexagone Live sur François Hadji Lazaro, qui est notamment le fondateur de Pigalle et des Garçons Bouchers, groupe de punk français du début des années 90. Merci Sylvain et bon après-midi à toutes et à tous. On se retrouve demain à midi pour une nouvelle onde curieuse.